le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Ciprian Mihali, maître de conférence en philosophie politique et sociale à l'université Babesh Boliaï de Cluj. Parallèlement à sa fonction académique et à ses recherches, Ciprian Mihali a occupé plusieurs postes à responsabilité. Il a notamment été ambassadeur de la Roumanie au Sénégal. Alors avec lui, nous allons parler université, francophonie, diplomatie et un peu politique. Ciprian Mihali, bonsoir.
Bonsoir, c'est tout un plaisir d'être avec vous ce soir.
C'est un plaisir pour nous également. Alors, je mentionnais que vous avez été ambassadeur, mais également de 2016 à 2020, vous avez été directeur de l'Agence universitaire francophone pour l'Europe de l'Ouest, poste basé à Bruxelles. Vous me direz si je me trompe. C'est exact.
En effet, c'est bien ça.
Voilà. Oui. Alors, première question, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience à Bruxelles en tant que directeur de l'AUF?
Écoutez, c'était une expérience particulièrement riche, plein de provocations et plein de nouvelles expériences. C'était par ailleurs un mandat qui venait après une longue période de travail autour et au sein de la francophonie. J'avais commencé à être actif et présent dans la formation et dans la coopération francophone à partir des années 2000. En fait, je peux dire que tout mon parcours professionnel est lié à la francophonie. Dès mon inscription en thèse en 1993 jusqu'à aujourd'hui, la francophonie est ma deuxième patrie, si je peux dire ainsi. Et donc, de ce point de vue, le poste à Bruxelles était comme une sorte d'accomplissement, ou si vous voulez, pour moi personnellement, une sorte de reconnaissance d'un travail mené pendant des années et des années. Parmi et au sein des réseaux francophones que j'ai créés moi-même ou auxquels je me suis rattaché, donc sur une période de plus de deux décennies.
Et ça vous a plu de vivre à Bruxelles? Est-ce que vous aviez le temps? C'était un poste à responsabilité intense ou vous aviez quand même le temps de découvrir la ville, de vous promener?
C'était les deux, si je peux dire ainsi, c'était les deux, parce que à mon arrivée à Bruxelles en 2016, j'ai trouvé une toute petite équipe avec un bureau qui ne se portait pas très bien. Du coup, j'ai dû en effet construire ou reconstruire cette équipe. Ça a pris un petit moment, et surtout le plus important, c'était d'imaginer une stratégie pour cette équipe, parce que vous voyez bien, la francophonie, elle est très active dans beaucoup de régions du monde, que ce soit en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Europe de l'Est ou en Asie du Sud-Est, mais elle n'était pas, si vous voulez, au rendez-vous en Europe de l'Ouest, justement, là où nous avons bien sûr les trois grands acteurs de la francophonie, la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone, alors que en dehors de ces pays, la francophonie ne se portait pas très bien du point de vue institutionnel. Donc, si vous voulez, le plus grand défi pour moi était justement de réactiver ou d'inventer, non, je ne dirais pas peut-être d'inventer, mais d'aller à la rencontre de cette francophonie diverse qui existe au sein de la région de l'Europe de l'Ouest, du Portugal et de l'Espagne jusqu'en Finlande ou en Irlande, mais également en Italie, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Donc, j'ai sillonné pratiquement pendant presque 4 ans, j'ai sillonné toute cette région pour aller justement à la rencontre de ces grands acteurs de la francophonie qui étaient là, qui étaient présents, qui travaillaient de façon très active et très créative, mais qui n'étaient pas, si vous voulez, encore pris dans des réseaux institutionnels. Alors, mon souci et mon effort allaient dans cette direction, d'aller rencontrer à Lisbonne, à Porto, à Madrid, à Barcelone, à Naples, à Turin, à Edinburgh ou à Oxford, mais même à Helsinki, aller donc rencontrer des chercheurs, des équipes qui étaient formées en francophonie, qui avaient travaillé travaille déjà dans des relations bilatérales de bonne qualité, soit avec la France, soit avec la Belgique, soit avec le Canada, et donc les mettre ensemble. Les mettre ensemble, créer des réseaux qui aillent au-delà, justement, de la francophonie française ou de la francophonie belge qui était, bien sûr, chez elle, à Paris ou à Bruxelles ou à Namur, mais qui avait besoin d'une reconnaissance ou, si vous voulez, d'une petite impulsion dans les autres pays. Et pour moi, c'était une surprise extraordinaire et une grande reconnaissance professionnelle de rencontrer les belles équipes à Lisbonne, à Madrid.
C'est vrai qu'on... Excuse-moi, je vous coupe, Monsieur Michali. C'est vrai que depuis la Roumanie, on pense surtout à développer la francophonie en Europe centrale, de l'Est. On parle beaucoup aussi de la francophonie en Afrique, mais on évoque peu la francophonie en Europe de l'Ouest. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Mais pour revenir à la Roumanie, à la République de Moldavie, il y a des collaborations vives, et vous le savez, dans le milieu universitaire, entre ces pays et les autres pays francophones de l'UE. Alors, vous disiez que la francophonie était votre autre patrie. Et pourquoi la francophonie, pour vous, elle est importante? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes roumains et moldaves?
Eh bien, je fais partie d'une génération qui a appris le goût de la liberté, le goût du dialogue, le goût de la... des valeurs démocratiques en langue française. Dès l'ouverture des frontières et des mondes après la chute du mur dans les années 90, j'ai tout de suite pris ma direction vers la France. J'ai commencé donc avec une thèse de doctorat à Strasbourg, mais je voyageais beaucoup en France. Et sur ces bases, j'ai mis sur place avec des collègues roumains au début et ensuite des autres pays de la région, un réseau francophone européen. Pour nous, c'était important, bien sûr, d'avoir une relation aussi étroite que possible avec Paris ou avec Lyon ou avec Bruxelles, mais nous ne savions quasiment rien sur ce qui se passe à Belgrade, à Budapest, à Prague ou à Varsovie. Et nous avons donc imaginé un réseau francophone dans les années 2000 qui tient jusqu'à aujourd'hui. C'est le réseau OFRES, un réseau qui comptait à l'époque plus d'une vingtaine d'universités et des centaines de chercheurs, d'étudiants ou des jeunes doctorants que nous avons mis ensemble, que nous avons réunis chaque année pour une université d'été, que ce soit en Roumanie, en Albanie, en Slovaquie ou ailleurs, que ce soit en France, en Belgique. Et tout cela nous a permis donc d'avoir une très, très bonne connaissance de nos mondes à nous. Je vous donne un simple exemple. Dans les années 2000, vous saviez, nous n'étions pas seulement à la sortie du monde communiste, mais nous étions aussi sur les ruines d'un monde qui allait mal, surtout dans l'ancien espace yougoslave. Et nous avons de sorte réussi à mettre ensemble des chercheurs francophones serbes, croates, kosovars, albanais.
La francophonie a été un dénominateur commun, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement, exactement. Et ça a créé des liens d'amitié et des liens de compréhension très forts, parce que ça passait, si vous voulez, par quelque chose qui sortait de l'opposition ou de l'hostilité réciproque. Et bien sûr, nous étions dans un milieu académique où les passions, si vous voulez, nationalistes ou politiques étaient moins fortes et où les gens étaient très disposés à s'ouvrir, à entamer un dialogue. Et ces gens-là, ces jeunes des années 2000, sont aujourd'hui des personnes importantes dans leur pays. Ce sont des professeurs d'université, certains d'entre eux sont entrés en politique. Et j'ai la forte conviction que certains d'entre eux ont contribué justement à l'apaisement, si vous voulez, de l'ambiance politique dans une région, vous savez bien, fragmentée, dans ces Balkans qui sont si imprévisibles. Et donc, bosniaques, serbes, slovènes, croates, albanais, kosovars se sont mis ensemble. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. La dernière université d'été a eu lieu cet été, justement en France, et elle va continuer pour la 22e ou 23e année consécutive.
Mmh. Et je reviens juste sur ces jeunes roumains et moldaves. Deux mots sur pourquoi apprendre le français, c'est selon vous toujours important.
C'est une langue d'une énorme richesse, d'une énorme imagination linguistique, stylistique, littéraire. Je l'ai appris, moi, en même temps que non seulement je lisais la philosophie française, mais j'écoutais la musique française, j'apprenais la gastronomie française, le vocabulaire de la gastronomie française qui était le dernier acquis, si vous voulez, parce que je savais, je connaissais déjà assez bien la philosophie, je connaissais une partie de la littérature, j'apprenais la musique, j'ai découvert les grands chanteurs ou les grands musiciens français, mais j'étais complètement nul en gastronomie. Donc, me retrouver devant un menu à Paris, c'était pour moi comme du chinois. Et ça, c'était une épreuve, si vous voulez. Tout ça pour vous dire que le français, si vous voulez, c'est un complexe très riche. Qui ouvre plusieurs mondes en même temps, qui ouvre donc des mondes culturels, qui invite au dialogue, qui invite aux valeurs démocratiques, de la tolérance, de l'hospitalité. Et ça, pour moi et pour beaucoup de jeunes de ma génération dans les années 90, c'était justement le synonyme de la liberté. C'était le synonyme d'une émancipation que nous imaginions impossible quelques années auparavant. Les jeunes roumains et moldaves.
Mmh. Oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, et ça ouvre également des portes. Hein. Il faut insister sur toutes les institutions européennes, mais aussi internationales, et pour travailler aussi dans des multinationales, notamment françaises, qui sont bien implantées par ici. Donc ça, c'est un petit peu les arguments classiques. Mais celui de la gastronomie, je n'y avais pas pensé. Et effectivement, c'est pour moi-même, parfois, c'est un peu compliqué de lire certains menus gastronomique français. Donc j'imagine, oui, c'est un bon argument. Donc ça permet aussi de bien lire les menus. Si vous voulez bien, Monsieur Mihaly, j'aimerais qu'on passe maintenant à un peu autre chose, à votre expérience en tant qu'ambassadeur au Sénégal de 2012 à 2016. Vous étiez également responsable de 7 autres pays de la région. Alors je vais vous reposer la même question. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Et aussi, quel est votre sentiment quand vous en avez déjà parlé de cette Afrique subsaharienne qui, en ce moment, se détache, en tout cas certains pays se détachent, alors surtout de l'influence française, mais peut-être aussi, je ne sais pas, de la couverture francophone, on va dire.
Oui, c'était une période difficile, mais extraordinaire en même temps. C'était difficile parce que je plongeais pour la première fois pour une longue période. J'avais été déjà en Afrique précédemment, j'avais fait une quinzaine de missions dans plusieurs pays africains, mais à chaque fois, vous voyez, des courtes missions académiques ou des coopérations internationales, 3 jours, 4 jours, une semaine. Mais là, j'étais basé à Dakar, donc m'installer dans un pays africain pour une période assez longue, 4 ans, c'était pas évident du tout. C'était difficile, d'abord pour entrer dans la vie quotidienne, bien sûr, pour fixer tous ces rituels, toutes ces pratiques, au-delà, bien sûr, de tout ce que j'avais comme tâche diplomatique au sein de l'ambassade et dans le milieu
personnel,
diplomatique.
Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Vous aviez combien de personnes qui travaillaient avec vous?
Ah, très peu, très peu. On était 4 Roumains au sein de l'ambassade, par 2 fois 2. On n'a jamais dépassé 5 ou 6. On était une toute petite équipe pour une immense région. On rigolait même disant que nous sommes la petite équipe napoléonienne qui maîtrise la moitié du monde, parce que vous voyez, 8 pays subsahariens, c'est presque toute l'Europe. Et donc, on couvrait un territoire immense, avec des pays aussi divers, vous voyez, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Gambie, le Cap-Vert, mais Burkina Faso, la Guinée Bissau, tout ça, c'est des pays extrêmement divers culturellement et surtout politiquement. Et j'arrivais à Dakar en 2012 sur une période d'enthousiasme social et politique avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, d'un nouveau gouvernement. Et donc, j'ai on peut flotter, si vous voulez, sur cette vague d'enthousiasme qui peu à peu s'est diminuée par la suite jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. C'était encore, si vous voulez, une Afrique subsaharienne qui résistait bien aux attaques et aux séductions des fondamentalismes et qui donc était ouverte vers l'Union européenne, notamment vers la France, qui joue toujours un rôle très important dans la région, vous savez bien, qui est un partenaire de longue date, mais qui et par rapport auquel, bien sûr, il y a toujours ce regard ambivalent. D'une part, bien sûr, un partenaire fiable depuis des décennies, sinon des siècles. D'autre part, cette ombre qui pèse encore du colonialisme ou du néocolonialisme, etc. Et donc, il y a eu une certaine évolution de l'Afrique subsaharienne, une évolution politique, économique ou religieuse qui a fait que des tendances alternatives étaient en train d'émerger. Nous les avons vues, je les ai vécues au Mali surtout, et on voit aujourd'hui le Mali dans quel état il est, ce pays est extraordinaire, mais également au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, même au Sénégal aujourd'hui avec une certaine approche souverainiste. Tout cela pour dire donc que l'Afrique subsaharienne est un champ de bataille immense pour toutes les grandes puissances du monde. On assistait tous à cette époque à cette confrontation très très dure entre des partenaires immenses comme la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, l'Union européenne, le Canada ou les États-Unis, chacun ou chacune avec ses stratégies très très différentes, avec ses présences plus ou moins agressives, plus ou moins intéressées, bien sûr, et qui ont fait que finalement ces pays s'est retrouvés un peu, je dirais, harcelés. N'est-ce pas, harcelé entre plusieurs offres, plusieurs sphères d'influence qui font qu'aujourd'hui, certains pays africains deviennent de plus en plus méfiants par rapport à la France ou à l'Union européenne et s'attachent de plus en plus à d'autres offres qui viennent notamment du monde chinois ou du monde arabe. Et ça, je dirais, c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai, l'Union européenne n'a jamais eu la force financière ou, si vous voulez, la promptitude financière qu'avait à l'époque et aujourd'hui encore la Chine. La présence de l'Union européenne était toujours conditionnée par un certain respect des droits de l'homme, de l'état des droits, de la démocratie, etc. Et cela a parfois retardé certaines interventions de l'Union européenne. J'ai participé moi-même à des cérémonies ou à des projets européens au Sénégal et dans les autres pays. Les aides ou le soutien européen n'étaient pas au niveau chinois, par exemple, mais étaient toujours liés à cette inquiétude, si vous voulez, ou à ces partenariats en vue de l'état des droits, des droits de l'homme, etc. Et cela, à un moment donné, s'est détaché. Mon impression, après mon départ, c'est que à un moment donné, pendant cette période, il y a un certain détachement, une certaine séparation entre ce qui est l'aide financière ou le soutien à l'Afrique ou les investissements en Afrique et d'autre part, les soucis pour la démocratie et pour les droits de l'homme, l'état des droits, etc. Et donc, il y a comme une sorte d'impatience qui vient avec certains retards économiques, notamment. Et là, les investissements qui arrivent, notamment du côté chinois ou arabe, se font directement, ne posent aucune question au gouvernement, mais il y a des endettements pour de longues périodes qui vont certainement affecter le développement durable et les générations futures en Afrique. Donc c'est un paysage, si vous voulez, éclaté un peu inquiétant aujourd'hui, d'autant plus qu'un autre acteur que nous connaissons tous bien devient présent dans la région avec Wagner et des autres groupements dont le souci n'est certainement pas la démocratie ou l'état des droits.
Merci pour cette parenthèse africaine, Monsieur Mikhaï. Alors, j'aimerais qu'on en vienne maintenant à votre spécialité, votre domaine d'études et de recherche, la philosophie sociale et politique. En préparant cet entretien, vous me citiez certains des philosophes qui vous accompagnent toujours aujourd'hui, Derrida, Deleuze, Foucault. Pourquoi ces philosophes, selon vous, sont importants aujourd'hui encore?
J'ai découvert cette philosophie dans les années 90 et tout de suite, j'ai voulu travailler avec eux. Et en tout cas, ce qui restait encore de la grande philosophie française du XXe siècle. Et j'ai eu la chance immense et unique de rencontrer Jean-Luc Nancy à Strasbourg. Jean-Luc Nancy était un intellectuel d'une énorme noblesse spirituelle et culturelle. C'était quelqu'un d'une générosité et d'une compréhension comme j'ai jamais rencontré. Mais en même temps, c'était un grand philosophe, un esprit analytique et critique d'une grande subtilité. Et c'est grâce à lui que j'ai pu, si vous voulez, avancer me développer dans la connaissance de la philosophie française. J'ai eu des longs dialogues avec lui pendant mes années de formation doctorale et je lui posais bien sûr toutes sortes de questions, parfois des questions naïves, parfois des questions un peu bêtes ou des questions de bonne qualité. Tout ça pour dire que c'était un vrai maître d'une grande générosité, encore une fois, qui avait toujours du temps disponible, qui avait une patience de l'explication et de la compréhension dans ses cours, dans ses rencontres privées, dans ses textes également. Et ça m'a amené donc à aller plus profondément dans l'espace de cette pensée philosophique. Ce que j'aime d'abord dans cette philosophie, c'est le fait qu'elle garde, si vous voulez, quelque part, une revendication des rationalités et d'émancipation par la culture ou par la pensée critique. Je reste attaché à la pensée critique telle qu'elle est développée, que ce soit par Derrida, Foucault, Lyotard, Deleuze, Nancy et d'autres. Et en même temps, ce sont des gens qui ont été toujours critiques avec toute forme de pouvoir. La fonction de l'intellectuel public, et ils étaient des intellectuels publics, nous savons bien combien Foucault était impliqué dans les années 70 ou Deleuze ou Derrida jusque dans les années 2000 jusqu'à leur mort était engagé civiquement et était toujours critique par rapport à toute forme de pouvoir et en même temps s'attachait à des causes sociales ou à des causes qui permettaient la libération de la pensée de toute idéologie. Je cite ici le rapport que Foucault avait avec le marxisme, avec le stalinisme, les scandales violents qu'il a eu avec Garaudy dans les années 60, par exemple, son opposition féroce au stalinisme, ensuite la position de Deleuze dans les années 70 contre la même pensée dogmatique qu'elle soit marxiste à l'époque stalinienne ou d'inspiration chinoise mais en même temps c'était toujours des grands défenseurs des valeurs de la raison, de la liberté, des droits de l'homme et ils le faisaient toujours de cette façon critique. Et bien sûr, non seulement avec une démarche critique, mais avec également une très forte, une très profonde connaissance des classiques. Ce sont donc des philosophes à vocation universelle, ce sont des philosophes qui développaient un style d'écriture qui m'a toujours fasciné. C'est des grands écrivains en même temps. Mais regardez par exemple les cours de Foucault vers la fin de sa vie, son érudition extraordinaire par rapport à la pensée classique, que ce soit la pensée grecque ou la pensée chrétienne des premiers siècles, de la philosophie classique. Donc, c'était des gens formés dans les hautes écoles françaises, bien sûr, l'école normale dans les années 50 ou 60, école de hautes études, etc. Et je donne toujours l'exemple à mes étudiants pour leur dire, ah oui, ils se plaignent, parfois les examens sont durs. Et je cite de la biographie de Foucault, vous voyez, les examens à l'époque, c'était 7 heures à la Sorbonne, il y avait juste une petite bouteille d'eau et un sandwich, et 3-4 jours d'affilée, des examens tout au long de la journée. Et c'était, comment dire, c'est par passion de la connaissance, n'est-ce pas? C'est par un respect qu'on doit toujours à la grande pensée de l'histoire de l'humanité et qui reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui.
Précisément, Monsieur Mihaly, est-ce que parfois vous avez le sentiment qu'on devrait davantage faire appel à leurs idées? Je me rappelle, je crois que Deleuze disait qu'un philosophe, c'était un créateur de concepts, hein, qu'il était, c'est ça, hein, c'était l'une de ses grandes idées. Mais est-ce que vous pensez que ces concepts-là, est-ce que leur façon de rationaliser, d'essayer de comprendre le monde, peuvent, face à la complexité d'aujourd'hui, peuvent encore être utiles?
Tout à fait. Je le pense fermement, puisque, comme vous avez bien cité Deleuze, la fonction de philosophie reste toujours celle de, comme disait Foucault, d'être un journaliste, comme une sorte de journalisme, un certain rapport à l'actualité. Et ce rapport à l'actualité, c'est la capacité que la pensée peut avoir de discerner entre ce qui fait sens et ce qui est éphémère, mondain ou juste du marketing. Et dans ce contexte, Deleuze disait clairement que si Platon est d'actualité aujourd'hui, c'est parce qu'il a su penser son temps avec les mots de son temps. Et que la philosophie ne meurt pas. Il n'y a pas une fin de la philosophie, une mort de la philosophie. Il y avait toute une mode à un moment donné qui parlait de la mort de la philosophie ou de la fin de la philosophie. Non, si la philosophie meurt, elle meurt de rire, disait Deleuze. Parce que, regardez aujourd'hui, Deleuze est parti il y a 30 ans, mais le monde a évolué énormément depuis. Et nous voyons aujourd'hui surgir tout ce paradigme du numérique et du digital qui change complètement la face du monde. Et là, la philosophie est encore en retard. C'est-à-dire que la philosophie n'a pas trouvé encore les concepts pour décrire et comprendre ce monde. Cela se passe dans les domaines techniques, cela se passe dans l'économie, cela se passe même dans la sociologie parfois, dans les sciences. Mais la philosophie marque, à mon avis, un certain retard. Nous faisons des efforts. Moi-même, j'enseigne un cours sur la communication numérique et je me rends compte qu'on n'a pas encore l'appareillage, on n'a pas encore la boîte à outils.
Les critiques restent surtout sociologiques, non ?
Elle reste surtout sociologique. Il y a une sociologie du numérique d'excellente qualité, même en France, il y a des auteurs que je lis avec beaucoup de passion. Mais la philosophie, si vous voulez, bien sûr, la philosophie n'est pas toujours forcément d'une grande promptitude. Elle n'est pas sollicitée au même titre que d'autres sciences, que sais-je, par les gens puissants de la société ou par les institutions. La philosophie prend son temps. C'est comme disait Lyotard, c'est le seul inconvénient de la philosophie, que dans un monde qui n'a pas de temps, la philosophie fait perdre le temps. Mais c'est une perte utile, en quelque sorte, c'est une perte qui donne ses résultats à la longue.
Donc un peu de patience, oui.
Et un peu de patience, mais patience dans le sens où la rumination de l'actualité prend du temps. J'essaie moi-même et d'autres collègues en France, aux États-Unis ou ailleurs, essayent en même temps de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Comment nous pouvons utiliser des concepts hérités, par exemple, de la grande philosophie française? Comment réfléchir aujourd'hui sur la pensée rhizomatique telle que décrite par Deleuze ou la critique du pouvoir. Que dirait aujourd'hui Foucault sur les évolutions des pouvoirs, des jeux de pouvoir, des relations de pouvoir aujourd'hui? Comment pratiquer une déconstruction, n'est-ce pas, des nouvelles configurations sociales ou politiques d'aujourd'hui telles que les travaillait Derrida? Donc, moi, je prends inspiration dans tout cela, non seulement, bien sûr, pour essayer de mieux comprendre la philosophie française, mais également pour inventer quelque chose de nouveau, pour essayer d'être en prise avec mon actualité, parce que c'est notre actualité qui nous pose des questions, qui nous interpelle et qui nous oblige à réfléchir à nouveau frais sur ce qui se passe avec nous et autour de nous.
J'aimerais vous poser une dernière question, Monsieur Mihaly, plutôt concernant non pas la philosophie, mais disons la politique sociale. Ce qui me marque en Roumanie, mais ça se passe aussi et toujours plus dans d'autres pays d'Europe, c'est ce mur, cette cloison entre d'un côté la sphère politique et la société civile de l'autre. Or, et vous me direz si je me trompe, enfin je crois que c'est ce qu'on enseigne notamment en sciences politiques, les dirigeants sont en partie, voire en grande partie, une émanation de la société civile, des souhaits de la société civile, une résultante donc de la du vote notamment. Est-ce que déjà ça, vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Partiellement.
D'accord, vous allez me l'expliquer. Et parce que j'aime prendre cet exemple qui va peut-être paraître un peu absurde pour certains, mais plus les citoyens se comporteront de façon polie, gentille, civilisée dans la rue même, et plus ils auront de chances d'avoir des dirigeants qui sont respectés, considérés, etc. Alors c'est un petit peu extrême comme exemple, mais il y a une telle dissociation entre, et je le ressens notamment ici, entre le politique et la société civile, qu'il faudrait peut-être faire comprendre aussi qu'il y a une responsabilité du citoyen pour pouvoir espérer aussi un autre type de classe politique. Qu'en pensez-vous?
Là, nous sommes bien d'accord. Je pense qu'en effet, il y a comme une sorte de séparation, de clivage entre la classe politique et la société. Mais je pense que cela est dû aux deux parties. Je commencerai avec ce que vous avez dit au début. Je ne suis pas tellement certain que la classe politique actuelle soit une émanation de la société civile. Je pense plutôt qu'elle est une émanation de certains jeux de pouvoir qui se sont constitués à partir des années 90. Et que cette classe politique s'est érigée peu à peu dans comme une sorte d'oligarchie politique qui se reproduit de par elle-même et à laquelle l'accès est parfois assez difficile. Ce n'est pas évident, et nous avons vu quelques brèches seulement dans ces deux dernières décennies, quelques brèches par lesquelles une petite partie de la société civile, certains représentants de la société civile, soient parvenus à devenir des hommes politiques. Et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident parce que la classe politique s'est séparée, a construit des murs autour d'elle, et que certains modes de reproduction des hommes et des femmes politiques mettent des tests très durs pour les représentants de la société civile. Cela s'est passé. C'est passé en 2004 avec l'arrivée au pouvoir du président Traian Băsescu sur une vague d'enthousiasme populaire. Un certain nombre d'intellectuels ont été invités à participer au pouvoir. La plupart d'entre eux sont sortis assez vite parce que ce n'était pas pour eux. Il y a une corrosion très forte produite par la politique et les intellectuels sont souvent naïfs, idéalistes et ils résistent pas. Le jeu politique est toujours très très dur. et impitoyable. Et donc les intellectuels, avec leurs valeurs et leurs principes universels, ne résistent pas dans cet espace du compromis ou du jeu politique d'intérêt. Et cela s'est passé aussi ces 10 dernières années, quand la société civile roumaine est arrivée à une certaine maturité et qui s'est exprimée publiquement, qui s'est exprimée parfois dans la rue. Vous savez bien qu'il y a eu des protestations à partir de 2013 avec le dossier Rocha-Montana, ensuite avec en 2015 avec Collectif, 2017, 2018.
Qui a fait tomber le gouvernement d'ailleurs, oui, de l'époque.
Qui a fait tomber des gouvernements. Donc, il y a une certaine force de la société, n'est-ce pas? Mais il y a en même temps une confrontation permanente entre la société civile et le pouvoir politique. Mais la société civile, elle, a du travail. Il y a des gens qui travaillent dans des organisations, dans des universités, dans des entreprises. Elle utilise seulement une partie de son temps pour s'impliquer civiquement ou socialement. J'ai parlé avec des représentants de la société civile, des grandes personnalités en Mali, qui m'ont dit « on est fatigué ». On a beaucoup de choses à faire, là, des organisations civiques qui se battent pour des enfants défavorisés ou pour des malades ou pour toutes sortes de situations sociales, qui disent nous devons être là, nous devons être présents avec les enfants, avec les pauvres, avec les exclus de la société, et nous n'avons plus le temps d'aller contester le pouvoir. En même temps, le pouvoir, ou si vous voulez, les politiques, ils sont là tous les temps. C'est leur métier, ils sont payés pour faire cela. Et il y a comme une sorte de guerre d'usure, en fait, entre les deux, n'est-ce pas, où le politique finit toujours par l'emporter, ou presque toujours par l'emporter, parce que ils ont les moyens législatifs, les moyens d'action, les médias de leur côté. Et cela leur permet donc d'éviter des confrontations direct ou d'éviter d'arriver dans des situations critiques devant la société. Mais vous avez raison, en même temps, je pense que la société civile roumaine a mis du temps à apprendre son rôle et ses responsabilités civiques. C'est la modernisation de la société roumaine était pendant le communisme extrêmement inégal. Il y a eu comme une sorte de modernisation, bien sûr, dans l'industrie, dans la construction des villes, etc. Mais la société civile n'a jamais été un objet de modernisation. Au contraire, elle devait être, bien sûr, inhibée. Et donc, on a appris à faire cela avec toutes les erreurs possibles, avec l'enthousiasme des années 90, ensuite avec l'apparition de certains leaders de la société civile, mais je pense qu'il y a comme une sorte de maturation, comme une sorte de développement un peu plus lent peut-être, mais nécessaire de la société civile. Et elle est nécessaire dans une société où, comme dans d'autres sociétés, le pouvoir a la tendance d'accaparer les ressources, et non seulement les ressources financières, mais les ressources médiatiques ou même certaines ressources humaines. Donc, c'est si vous voulez, c'est une évolution qui est en cours. J'ai fait toujours confiance et jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez avoir un diagnostic de la société roumaine, vous ne le trouverez pas auprès des politiques, mais auprès plutôt de la société civile.
Et vous avez raison, ces dernières années, on voit comment la société civile, représentée par les ONG et autres associations et fondations, se sont véritablement développées, rien à voir avec le début des années 2000, je suis tout à fait d'accord avec vous, et elles ont besoin de soutien, hein. C'est un petit peu aussi ce que je voulais dire, c'est que le citoyen lambda de la rue doit comprendre que cette société civile doit bien travailler ensemble. Monsieur Mihaly, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous à l'émission Le Micro du Soir. Ça a été un entretien très divers. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Et à bientôt. Nous ne perdons pas le contact. À bientôt, M. Mihaly. Merci.
À très bientôt. Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Weekend Blackout. Au revoir.
Le micro du soir, Aïch la RFI.